Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 21 juin avec le journal d'Anaïs Feuga. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Fabienne.
L'essentiel ce soir, évidemment, parle d'élections.
Élections, tractation au lendemain du premier tour des régionales. Les yeux rivés sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jusqu'à cet après-midi, le scénario était celui d'une triangulaire favorable au RN, mais la liste de gauche écologiste soumise à la pression se retire. Finalement, nous serons à Marseille. Nous verrons aussi que la majorité présidentielle est en mauvaise posture. Là, c'est les Républicains qui appellent à leur retrait dans trois régions. Quant au bulletin de vote, mal ou pas, acheminer les prestataires convoqués au ministère de l'Intérieur, vous entendrez la Poste. Dans l'actualité aussi ce soir, le procès du frère d'Adama Traoré à Pontoise, accusé avec 4 autres personnes d'avoir organisé les violentes émeutes contre la gendarmerie qui avait suivi la mort de son frère à Beaumont-sur-Oise en 2019. Sa sœur, Assa Traoré, est venue devant le palais de justice. Et puis la fête de la musique, version amélioration du Covid, terrasse obligatoire, place assise et regroupement réduit, mais les instruments sont sortis.
À 18h15, un jour dans le monde, en Éthiopie, qui a voté ce lundi. La comparaison s'arrête là, le contexte est bien lourd. En Éthiopie, le Tigré toujours en proie à la famine et Abiy Ahmed qui entend bien asseoir son pouvoir grâce à une démocratie bien orientée en sa faveur, on va le dire ça comme ça. 19h20, c'est le téléphone sonne, à vous de jouer. Après ces résultats électoraux que l'on ne cesse de commenter, abstention en tête, à vous de nous donner votre avis. Si vous n'avez pas voté, si vous l'avez fait, et comment remettre de l'enjeu dans un scrutin, dans des scrutins boudés de plus en plus, sauf la présidentielle qui semble-t-il est la seule à déplacer les électeurs. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il aura donc fini par céder.
Moins de 24 heures après la fin du premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le second tour prendra finalement la forme d'un duel. Les Républicains, Rassemblement National. L'écologiste Jean-Laurent Félisiac a fini par renoncer à maintenir sa liste pour dimanche prochain. Il avait obtenu 17% des voix derrière la liste Rassemblement National de Thierry Mariani et la liste du sortant, les Républicains, Renaud Muselier. La triangulaire ouvrait la voie à une victoire de l'extrême droite. Bonsoir Élodie Fauré, vous êtes à Marseille et les pressions étaient vraiment trop fortes.
Oui, pression forte des cadres du PS et de LV, en interne aussi de certains colistiers. Jean-Laurent Félizia, lui, ce matin l'assurait, il voulait rester droit dans ses bottes, mais au vu des résultats définitifs et après des heures de réunions retranchées dans son QG de campagne, le candidat a finalement cédé devant micros et caméras, les mains tremblantes et le cœur gros.
La défaite de la haine et de l'intolérance n'est pas certaine dans notre région si nous nous maintenons. Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce ne sont pas les pressions qui ont emporté la décision. C'est le souci tourmenté de l'intérêt général.
Personne n'a plus de peine que moi à vous le dire, mais je voterai dimanche Renaud Muselier, conclut Jean-Laurent Félidia avant de disparaître, invitant sans grand enthousiasme ses électeurs à faire de même, à accepter de faire front républicain contre Thierry Mariani. Une décision saluée ce soir par Renaud Muselier dans un communiqué. Cette décision, promet-il, ne sera pas oubliée.
Élodie Fauré depuis Marseille avec Gilles Gallinaro, Jean-Laurent Félizia, l'écologiste paysagiste de métier. Son portrait est à lire sur franceinter.fr. La trilogie marseillaise semble donc boucler ce soir son acte 2. Ailleurs, c'est jour de négociation, d'accord, avant de déposer demain soir, 18h, les nouvelles listes. À droite, le président des Républicains appelle certaines listes de la majorité présidentielle à se retirer. On a donc le Front Républicain contre le RN en PACA. On a maintenant le front contre le risque de gouvernance avec l'extrême gauche dans trois régions, explique Christian Jacob.
Nous demandons le retrait des listes de la majorité présidentielle dans les pays de la Loire, en centre Val-de-Loire, et nous le demandons également en Bourgogne-Franche-Comté, où là aussi il y aura des alliances avec des équipes, avec des représentants de l'extrême gauche ou des verts extrémistes.
Christian Jacob, ce midi au Conseil stratégique des Républicains. Bonsoir Yaël Gauz.
Bonsoir Anaïs.
Ces régions illustrent la mauvaise posture des listes La République En Marche. Alors en Centre-Val de Loire, le ministre Marc Fesneau était en position de rafler une région. Finalement, il ne termine que quatrième. Yael, que répond la majorité à cet appel de Christian Jacob ?
Pas que ce n'est pas un front républicain, que c'est un front LR tout court, évacue d'emblée la direction de l'AREM. Prenons les Pays de la Loire, à peine 12% pour la liste de l'ancien ministre François de Rugy, arrivé cinquième. Ni droite ni gauche, on ne choisit pas, on se maintient, on a des élus et on montre qu'on est utile, explique l'AREM, qui joue l'ancrage local, même modeste. Accessoirement, Mathieu Orphelin, ancien marcheur lui-même, n'est pas vu comme un dangereux gauchiste. La Bourgogne-Franche-Comté, le maintien de la liste du marcheur et maire de Nevers, Denis Thuriot, un peu moins de 12%, est confirmé. Même doctrine, le risque RN est faible, donc maintien pour exister. Après la main tendue refusée par la socialiste Marie-Guide Dufay. En centre-Val de Loire, ça se complique. L'espoir déçu, vous le disiez, du gouvernement. Marc Fesneau arrivé quatrième. La tête de liste Modem, 2 points derrière les Républicains, le Nicolas Forissier. Ça discute, mais on ne se vendra pas au rabais, prévient l'équipe du candidat Modem. Et puis terminons par la Bretagne, autre région parmi les 9 où l'AREM n'est pas disqualifié d'emblée. Thierry Burlot, l'ex-socialiste, 5 points derrière le président sortant Loïc Chesnais-Girard. Ces deux-là ne s'entendront pas. Burlot garde la même liste pour le deuxième tour. Les druides, Le Drian et Ferrand, auraient pu se réunir sous le gui, plaisante un dirigeant de l'AREM. Mais trop tard, il n'y aura ni potion ni fusion magique.
Merci Yael Gauss, chef du service politique d'Inter en Auvergne-Rhône-Alpes. Le candidat La République En Marche, avec 8%, n'est pas qualifié pour le second tour. Dans cette région, c'est le sortant Laurent Wauquiez qui domine les débats, près de 44% des voix. Face aux Républicains, les 3 listes de gauche ont décidé de s'unir. 3 femmes, l'écologiste Fabienne Grébert à 30 points du sortant, la communiste Cécile Cukierman et la socialiste Najat Vallaud-Belkacem qui y croient toujours.
Moi, je pense que la gauche a vocation à se retrouver unie parce que c'est ainsi qu'elle répond le mieux à la fois à l'angoisse de la fin du monde et à l'angoisse de la fin du mois. Il n'y a pas de fatalité. On sait que les chiffres ne sont pas simples, hein, on ne se voile pas la face. Mais la réalité, c'est que la politique, ce n'est pas de l'arithmétique, tout est dynamique. Cette dynamique que nous arrivons enfin à créer pour ce second tour peut constituer l'espoir qui va déclencher du vote d'abstentionnistes, qui va déclencher y compris du vote d'électeurs de gauche qui nous en voulaient de ne pas être partis unis, soyons honnêtes, moi j'en connais beaucoup. Donc c'est sur cette dynamique-là que nous comptons pour, au second tour, pas simplement faire de la figuration, déloger Laurent Wauquiez.
L'ancienne ministre de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, au micro de Mathilde Imbertie à Lyon. Même photo d'Union de la gauche en Ile-de-France, prise cet après-midi à Aubervilliers. 12 d'heures de négociations pour aligner personnalité et programme. La liste sera menée par l'écologiste Julien Bayou avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain. La présidente de droite sortante, Valérie Pécresse, est arrivée largement en tête. Mais le parti qui a pris la tête des élections hier, c'est bien l'abstentionnisme plus que massive chez les jeunes. 87% des 18-24 ans et 83% des 25-34 ans n'ont pas voté. Tendance inverse chez les plus de 70 ans. Les femmes se sont aussi abstenues à 72%, désintérêt pour l'offre politique ou parfois ignorance même qu'il y avait une élection. Alors, bien sûr, quand certains électeurs ne reçoivent pas chez eux la propagande électorale, le couac devient politique. Et ce coup de chaud de la commission des lois du Sénat qui pointe des difficultés d'organisation majeure du scrutin. Les sénateurs, les Républicains entendront le ministre de l'Intérieur après-demain. Gérald Darmanin a convoqué les 2 prestataires ce matin pour leur rappeler l'obligation de résultat. Adrexo, pointé du doigt par la France Insoumise en particulier, le prestataire reconnaît qu'il a eu des perturbations en mai. Il se dit avoir été victime d'une cyberattaque, mais qu'il a résolu ses incidents. La Poste, elle, affirme avoir correctement distribué l'ensemble des plis qui lui ont été confiés dans les 7 régions dont elle a la charge. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes, Philippe Dor, le directeur du groupe La Poste, explique les modifications mises en place pour le second tour.
Nous remobilisons les 32 000 facteurs titulaires qui connaissent bien leur tournée. Il y a bien sûr aussi des renforts en complément pour les aider dans cette distribution. On va surtout mettre des référents dans chaque établissement, dans chaque département, en lien avec les mairies, avec les préfectures et les sous-préfectures, pour d'abord informer les pouvoirs publics de l'avancement de nos opérations de distribution. Et donc on aura 2 points par jour. S'il y a des anomalies, des difficultés de routage pour les corriger en temps réel, et puis aussi travailler sur les plis non distribuables, c'est-à-dire des adresses qui ne sont pas forcément justes pour que aucun pli ne traîne dans les cages d'escalier comme on a pu le voir dans d'autres régions. Nous allons renforcer cela par un certain nombre de publications d'encarts, notamment dans la presse quotidienne régionale, pour informer sur le dispositif que nous mettons en place. Donc nous allons renforcer cette communication par voie de presse.
Philippe Dorge, directeur général adjoint de La Poste avec Kathleen Comte. Dossier élection complet sur franceinter.fr et ne manquez pas les 6 graphiques pour comprendre l'abstention. C'est aussi tout à l'heure au téléphone sonne, Fabienne.
Absolument, avec votre avis au 01 45 24 7000. Un procès, Anaïs, sous haute surveillance devant la cour d'assises de Pontoise.
Sur les bancs des parties civiles, des dizaines de policiers et de gendarmes. Côté accusé, une femme et 4 hommes, dont le frère d'Adama Traoré, mort en 2019, peu après son arrestation par les gendarmes, mort en 2016, pardon, peu après son arrestation par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise. C'est que ce procès ne peut pas se comprendre sans revenir sur le drame de la mort de ce jeune homme noir dans la cour de la gendarmerie. Ce 19 juillet, il est interpellé avec son frère Bagui. Sa mort est annoncée dans la soirée à sa famille et en quelques heures, la violence explose devant la gendarmerie. 3 nuits d'émeutes et de tirs sur les forces de l'ordre. Son frère est donc jugé depuis ce matin, accusé d'avoir organisé ses tentatives de meurtre en bande. Emmanuel Leclerc, vous suivez le procès, bonsoir.
Bonsoir.
Et le directeur de l'enquête a été malmené.
Oui, c'est finalement le seul incident de ce premier jour de procès puisqu'il n'y a pas eu de tension autour du tribunal. Les avocats de la défense, et en particulier Franck Berton, l'avocat de Bagui Traoré, ont dénoncé ce directeur d'enquête, jeune retraité de la gendarmerie, qui ne voulait pas venir faire son compte rendu à Pontoise, qui a fini par accepter une visio, une liaison depuis Saint-Malo, parce qu'il était en vacances. Même le président de la cour d'assises, Marc Trévidic, a regretté publiquement cette absence ici devant la cour d'assises. La qualité du son de la liaison n'était pas bonne en plus. Mais pour Assa Traoré, la sœur d'Adama, mort en 2016, et de Bagui, jugée durant les 3 semaines à venir pour tentative donc de meurtre en bande organisée de forces de l'ordre, le problème n'est pas là.
Emmanuel. Aujourd'hui, c'est un procès qui est complètement politique. C'est de l'acharnement que ma famille a subi. Bagui est innocent. Il n'y a aucun élément contre mon petit frère. Il n'y a aucune preuve. Nous avons une justice aujourd'hui en France qui veut pas répondre à la famille Traoré. Il n'y a pas de justice en France. Ça fait 5 ans qu'Adama Traoré est mort. Et aujourd'hui, sur le banc des accusés, nous avons des gendarmes qui se positionnent en victime. La vraie victime ici, c'est Bagui Traoré. Les vraies victimes ici, ce sont la famille Traoré. Et les vraies victimes ici, ce ne sont pas les gendarmes.
Et Assa Traoré qui doit témoigner demain soir devant la cour d'assises de Pontoise.
Emmanuel Leclerc en direct de la cour d'assises de Pontoise avec Éric Audra. Et puis on ne l'apprend qu'aujourd'hui, un policier a été mis en examen fin avril pour violence volontaire après des tirs de LBD sur 2 manifestants. C'était en janvier 2020 à Paris. L'un des tirs était quasiment à bout portant. La toiture de la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime arrachée en partie par un violent orage à la mi-journée. Dans l'Allier, de gros grêlons sont tombés sur le secteur de Vichy, des toits abîmés là aussi au pôle universitaire. Conséquence des orages, l'alerte orange a toutefois été levée par Météo France. Inédite, la grève à Europe 1 décidée vendredi est reconduite pour 24 heures à la quasi-unanimité. Les grévistes s'inquiètent de voir Europe 1 devenir un média d'opinion avec le rapprochement engagé avec CNews. Allez, on va terminer toutefois avec la fête et le soulagement. Le monde de la nuit voit enfin le jour. Les discothèques vont rouvrir le 9 juillet avec présentation obligatoire d'un pass sanitaire, vaccination ou test négatif. Et les concerts en public, debout, vont à nouveau être autorisés à partir du 30 juin. Voilà de quoi donner à cette fête de la musique 2021 des airs de tour de chauffe. On le sait, le protocole est encore strict. Mais ce soir, après des mois de restrictions, les mini-concerts fleurissent. Bonsoir Delphine Evenoux. Delphine Evenoux.
Bonsoir.
Qui est au Sunset, Sunside, un club de jazz à Paris.
Bonsoir Anaïs. Et dans cette salle de la mythique rue des Lombards, les concerts commencent à 19h, du jazz évidemment, et beaucoup de clients qui veulent fêter la musique dignement, raconte Stéphane Portel, le patron.
J'ai rarement vu ça, on a reçu plus de 300 coups de fil aujourd'hui, on sent que les gens sont en manque de musique et je crois qu'il y a aussi de nombreux concerts qui sont annulés. Le fait qu'on ait la fin du confinement il y a peu de temps fait qu'on a été pris de court.
Et effectivement, la musique ne résonne pas beaucoup pour un 21 juin dans ce quartier pourtant très animé au cœur de Paris. Peu de bars ont eu le courage de se plier au protocole sanitaire. Au Sunset Sunside, ce sera premier arrivé, premier servi.
Alors nous sommes en jauge réduite à 65% de la jauge, c'est-à-dire 65 places, et évidemment masque obligatoire.
Mais l'important c'est bien que la musique reprenne ses droits et soit la reine ce soir. Pour cela, on peut compter sur Laurent Courtaliac, le pianiste du club. Il n'a pas joué ici depuis plusieurs mois.
Je vais vous avouer une chose, c'est que ça faisait longtemps que je suis tellement habitué à jouer dans ce club, et pour mon plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas eu le trac, et ce matin j'ai vraiment eu le trac. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué, donc on va être très heureux de voir énormément de monde pour nous soutenir et pour jouer de la musique pour eux.
Début donc du concert dans une heure. Est-ce que vous entendez en avant-première, c'est Bud Powell, Strictly Confidential.
Merci Delphine Evenoux et François Rivalan. Pas de couvre-feu ce soir et sur Inter, le concert à l'Olympia, Fabienne.
Eh bien super, merci beaucoup Anaïs. À tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment dans Sous les radars d'un projet de débat en Allemagne qui est fort intéressant, ma foi. Ce soir, nous sommes en Éthiopie qui a voté aujourd'hui et puis à 19h20, dans le téléphone sonne, vous viendrez nous dire comment vous avez vécu ce premier tour des élections régionales et départementales, si vous avez voté ou pas, comment vous comprenez ce qui se passe en France, dans notre relation au vote, ce que ça dit aussi pour 2022 et aussi pour vous d'ailleurs à cette échéance, tout cela au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Élodie Calac, bonsoir. Encore nuageux ce soir et cette nuit, Élodie?
Oui, sur la plupart des régions, des orages vont persister ce soir. Ils arrivent en région parisienne pour la soirée. Ils peuvent être forts de l'Occitanie vers le massif central, Rhône-Alpes et le Nord-Est, avec des intensités parfois fortes, de la grêle, des rafales de vent. La Côte d'Azur et la Corse restent quand même à l'écart. Et puis demain, la matinée sera souvent nuageuse, avec quelques averses, encore quelques orages sur les régions de l'Est et le bassin parisien. Et les orages reprendront du service l'après-midi, Fabienne, en épargnant tout de même les régions voisines de la Manche.
Alors, et pour avoir du soleil, il faut aller jusqu'en Méditerranée apparemment.
Oui, dès le matin et puis sur l'ouest de la Bretagne et sur la pointe du Cotentin également l'après-midi. Les températures, elles baisseront encore. Le matin, il fera souvent 12 à 17 degrés et puis l'après-midi, 13 à 17 degrés sur les régions voisines de la Manche, 19 à 25 ailleurs et on ira jusqu'à 28 autour de la Méditerranée.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France. À tout à l'heure, après 19h.